Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre, émission un peu spéciale aujourd'hui, émission spéciale Goncourt. Alors c'est un peu particulier, le prix devait être remis le 10 novembre prochain, mais l'Académie Goncourt, par solidarité, reporte la remise du prestigieux prix à une date ultérieure, c'est-à-dire quand les libraires pourront rouvrir. Mais enfin, ça ne nous empêche pas, au contraire, de parler du Goncourt avec moi deux des plus éminents membres du jury, Françoise Chandernagor depuis la Creuse. Bonjour Françoise Chandernagor.
Bonjour.
Et Didier Decoin, le président du jury lui-même. Bonjour Didier Decoin.
Bonjour Nicolas.
C'est un grand plaisir de vous recevoir tous les deux, mais je vous annonce quand même la suite du programme. Le roman culte, bien sûr, nous lirons la première page de La vie devant soi de Romain Gary. C'est pas un choix anodin, il a reçu le prix Goncourt, mais il était signé Émile Ajar. Nous visiterons la bibliothèque du chanteur et écrivain Majid Cherfi, vous savez, du groupe Zebda. Nous irons nous balader dans une librairie, comme toujours, et ce grand enfant de Victor Dolande fermera la boutique avec son roman jeunesse. Mais d'abord, donc, les invités. La voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. La remise du prix Goncourt est donc remise à plus tard, mais on connaît les quatre finalistes, toujours en lice pour décrocher le prix littéraire le plus prestigieux du monde. Francophone. Reste donc Djaïli Amadou Amal, Hervé Le Tellier, Maël Renoir et Camille de Toledo. Le président du jury, Didier Decoin, et Françoise Chandernagor sont là. Didier Decoin, d'abord, je note quand même dans cette sélection, la sélection de départ, hein, des 15 premiers, un retour quand même, et c'est une tendance que j'observe dans la littérature française, au roman romanesque, ce que j'appelle le roman romanesque, c'est-à-dire avec une littérature, une intrigue forte. Est-ce que les écrivains français commencent à réinvestir ce domaine, alors qu'on a eu pendant longtemps des romans très tournés vers l'écrivain lui-même, un peu cérébraux, comme ça, sans trop le souffle romanesque des romans 19e, des Dumas, Hugo, etc., qu'on avait laissé un peu aux Américains? Or, vous êtes un Dumasien, et je me suis dit... Alors, deux questions en une. D'abord, est-ce que vous remarquez et appréciez ce retour du romanesque? Et par votre statut de président de jury, est-ce que vous donnez une couleur à la sélection? Ou alors vous n'avez pas ce pouvoir?
Alors je vais commencer par répondre à la deuxième question. Je n'ai pas ce pouvoir et je suis heureux de ne pas l'avoir parce qu'on est 10. Moi j'aime beaucoup que ce soit cette espèce de décapode qui se prononce sur le vote. Quant au retour du romanesque, vous êtes optimiste Nicolas. Parce qu'effectivement j'adore ce genre. Je ne suis pas certain qu'il était en perte de vitesse. Mais je ne suis pas certain non plus qu'il soit vraiment en train de revenir sur la place. Cette année, c'est peut-être un hasard. On a moins d'autofiction, c'est vrai. On a moins de... Mais c'est parce qu'il y avait un éparpillement des grands sujets possibles. Je veux dire, entre le terrorisme, il n'y avait pas encore le Covid, mais il y avait des problèmes de société en nombre considérable qui auraient pu inspirer les... Alors, ils ont choisi des vraies histoires et c'est pas plus mal. Et on remarque un peu la même chose dans le cinéma. Mais je ne suis pas certain que ce soit une installation.
Françoise Chandernagor, cette année, il y a eu quelques cris d'or fraîche et certains critiques littéraires sur le thème « Mais comment ? Qu'est-ce que c'est que cette sélection ? Où sont nos vedettes ?» C'est vrai que la sélection, cette année, a donné de la place à des écrivains alors très très talentueux, mais qui ne sont pas les plus connus. Est-ce que c'est une volonté aussi des membres du jury Goncourt ?
D'abord, c'était un peu l'idée d'Edmond Goncourt quand il a voulu créer ce prix. C'était qu'on aille chercher des nouveaux talents, enfin des gens qui ne sont pas encore très connus. Alors, parfois, on a fait le contraire. Hein, quand le Goncourt couronne Marguerite Duras et qu'elle a 70 ans, elle était quand même passablement connue. Mais dans l'ensemble, c'est quand même... Enfin, ce qu'avait dit Edmond Goncourt, c'est qu'il fallait amener de nouveaux talents. Hein. Donc ça, c'est souvent ce que nous essayons de faire et aussi de lire pas seulement ce que font les grandes maisons d'édition, mais aussi les petites maisons d'édition. Mmh. Et ils s'en créent sans arrêt de nouvelles, je dois dire. C'est un peu effrayant même par moment. Donc ça, c'est une première chose. Là, je crois que nous sommes tout à fait dans la volonté d'Edmond Goncourt. Et puis, y a aussi le fait que, quelquefois, les gens connus tournent autour de leur propre histoire, sont pas forcément vraiment romanciers. Alors, nous ne sommes pas obligés de couronner un roman, contrairement à ce que croient beaucoup de gens. Nous pouvons couronner un récit biographique ou des nouvelles, enfin, les termes du testament que nous devons respecter parce qu'ils ont été repris dans nos statuts, les termes du testament d'Edmond, c'était un récit en prose. Mais il disait... à égalité de valeur, le roman aura toujours la préférence. C'est-à-dire que, in fine, si nous hésitions entre un récit plus ou moins biographique, autobiographique, et un roman, nous devons couronner le roman. Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Didier pour dire qu'il n'y a pas un retour du romanesque, quand même si. Et je trouve qu'il y a davantage de romans de romans sur la société aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a 25 ans. Et il y a 25 ans, c'était quand même beaucoup voyage autour de mon nombril, hein, quand même, les romans. Ou alors des trucs pour choquer, les viandeuses, comme disait François Nourricier, enfin des histoire sexuelle un peu hard, etc. Bon, mais il y avait peu de romans qui parlaient de la société. C'était un privilège qu'on laissait aux Américains. Et je trouve que les Français sont revenus beaucoup vers ce type de romans. On a couronné, par exemple, il n'y a pas longtemps, Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, mais ouais, beaucoup de romans de ce type-là. Maintenant, nous en avons Leïla beaucoup, Slimani. Et peut-être même trop, parce qu'on voit des gens qui sont en prise sur le dernier problème social à la mode, et on va avoir 25 romans sur le même thème. Bon, ça, c'est un petit peu agaçant. On a pas mal de romans sur la pédophilie, actuellement, sur le viol des femmes, etc. Bon. Parfois, ça fait un peu trop, quoi. On voit que c'est dans l'air. Alors... Mais enfin, c'est pas mal de voir les romanciers revenir vers des problèmes de société et ne plus s'éloigner un tout petit peu de leur propre vie. C'est pas mal, quoi.
Didier Decoin, il y a encore eu une polémique cette année. Là, cette fois, c'était sur récit par récit, récit ou roman. Est-ce que le Goncourt a le droit ou pas, etc. Chaque année, il y a une polémique parce que ça s'explique parce que c'est le prix le plus important, hein, donc c'est normal. Mais est-ce que vous, en tant que président, vous rappelez chaque année les termes du Goncourt et du testament des frères Goncourt?
On se les rappelle mutuellement sans arrêt. Bon, mais on n'en tient pas forcément compte. C'est un vieux testament, il a plus de 100 ans, vous vous rendez compte? Non, ce qui est très très important, ce que nous essayons de faire, c'est de garder un sens dans la responsabilité qu'il y a à décerner ce prix. Au bout du prix, moi je ne l'oublie jamais, dès mon entrée à l'Académie Goncourt, ça m'a obsédé, au bout du prix, il y a un lecteur. Et ce lecteur, il ne s'agit pas de lui donner quelque chose qui n'est pas conforme, je ne dis pas à ce qu'il attend, parce qu'il faut le surprendre, mais à ce qu'il peut être en mesure d'espérer. Est-ce que le prix Goncourt, on ne l'achète pas toujours pour soi-même? On l'achète aussi pour l'offrir. Alors il faut penser à tout ça. Il faut penser à la catégorie des libraires. Ce sont les soldats de première ligne, ils sont dans la tranchée. Il ne faut pas leur donner non plus à vendre des choses qui sont invendables. Il y a tout un ensemble de considérations que moi j'essaye d'appliquer, mais en tout premier lieu, le Goncourt doit être un livre qui est lisible et qui fait plaisir.
Et pour déterminer le vainqueur du Goncourt, c'est tout un processus, on y revient dans un instant.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix est libre, spécial prix Goncourt aujourd'hui avec Françoise Chandernagor et le président du jury Didier Decoin. Je rappelle qu'il ne reste que 4 finalistes et que la remise du prix a été reportée à une date ultérieure quand on pourra acheter les livres sereinement dans les librairies. Mais quelle responsabilité quand même, Didier Decoin, vous le disiez tout à l'heure. Françoise Chandernagor, vous y pensez à ça? C'est un poids de se dire qu'on a autant de pouvoir sur la vie de quelqu'un, ou alors vous évitez d'y penser puisque ça vous paralyse?
Oui, je ne pense pas du tout à ça. C'est très, très méchant. Je ne pense pas beaucoup à l'auteur. Sauf que, d'une certaine manière, je trouve qu'il faut éviter un Goncourt pour un premier roman. On ne l'a pas toujours fait, d'ailleurs.
Pourquoi ?
Little, c'était un premier roman et on a sans doute bien fait de le couronner, mais la plupart du temps, si on couronne un premier roman, on écrase l'auteur. Mais en dehors de ça, je ne pense pas beaucoup à l'auteur, je pense au lecteur. Et comme Didier, je souhaite que le lecteur trouve le livre plaisant, lisible. Je ne suis pas trop pour l'expérimentation littéraire à chaud pour un concours, quoi. Je trouve que... Et très souvent, j'ai envie de faire partager le plaisir que j'ai moi-même éprouvé à lire ce livre. Et vraiment, il y a des grandes différences dans la lecture. On lit 60, 70 livres chacun pendant 2-3 mois d'été. Et il y en a qui vous restent et on sait qu'on a pris un plaisir immense et qu'on a passé la nuit à le lire. On a continué de tourner les pages, etc. comme un vrai lecteur. Puis d'autres, ben, on est allé au bout parce que des gens vous en avaient parlé, enfin des membres du jury, puisqu'on communique beaucoup entre nous. Et puis on peine un peu, quoi. Et puis quand je peux, moi je teste aussi sur mon mari, même sur mes enfants, voilà, je fais lire ou à des amis de passage, j'en fais lire un ou deux, j'aime bien qu'on me donne un avis aussi.
Moi je trouve que je me comporte beaucoup comme un, vous savez, je suis un gourmand, hein, et même peut-être aussi un gourmet, et je me comporte beaucoup comme un chef de cuisine. Souvent quand vous interrogez un grand chef, vous dites, ah, pourquoi la cuisine? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Ah, il vous dit, c'est un acte généreux, c'est un acte de partage, c'est faire naître des pétillements de joie dans les yeux des consommateurs. Ben, j'ai la même réaction avec les livres. J'ai toujours l'impression, quand je lis un livre et que je le garde dans ma... Je dis, je vais le mettre sur ma liste, j'ai l'impression d'avoir fait un paquet cadeau et d'imaginer en face de moi le monsieur ou la madame, c'est souvent une femme d'ailleurs, qui va défaire le paquet, ouvrir le livre, commencer à le lire et effectivement, comme dit Françoise, peut-être passer la nuit avec lui.
Sauf que vous n'avez pas toute une tablée à servir. Il n'y a qu'un seul invité et c'est vous qui le choisissez. Ça, c'est terrible.
Ben c'est, l'invité, en fait, c'est ce qu'on consomme. On est des cannibales, hein, là. La tablée à servir, c'est les lecteurs.
Oui, mais je parlais du lauréat.
Ah, le lauréat.
C'est dur.
On oublie trop ce que c'est qu'être lauréat du Goncourt. C'est une chose absolument extraordinaire. C'est pas la loterie nationale, c'est beaucoup plus comme dans un conte de fées, la personne qui trouve un coffret dans lequel il y a une petite clé magique qui va ouvrir des portes qui jusque-là restaient hermétiquement fermées. Moi, personnellement, quand j'ai eu le Goncourt, je savais exactement ce que j'allais faire de ce miracle. Quelle porte ma petite clé allait ouvrir. Je voulais faire du cinéma, je voulais diriger un film. Je suis allé demander à des responsables de la télévision si je pouvais faire un long métrage. Ils ont dit « Ah, un Goncourt qui dit moteur, action, coupé. » C'est amusant, comme vous voulez. Je voulais écrire des nouvelles. Je suis allé voir un éditeur, ça ne se vend pas les nouvelles en France. Ouais. Et j'ai dit « J'aimerais bien écrire des nouvelles. Ah, »« Vous êtes pris Goncourt, alors oui, on va dire oui. » Je voulais monter une pièce de théâtre. On m'avait dit « Vous savez, les directeurs de théâtre, ils ne lisent pas les pièces, ils n'ont pas le temps. » Je me suis dit, ben, j'ai envoyé mon truc en mettant Didier Decoing, prix Goncourt 1977. Alors là, ils ont lu parce qu'ils se sont dit, on ne sait jamais. Et j'ai monté ma pièce. C'est toutes ces petites choses auxquelles il faut penser.
Mais c'est
et
comme il faut Miss se dépêcher, France. Ça dure qu'un an. Oui. C'est comme Miss France.
C'est comme Miss France. C'est comme Miss France, c'est comme les frères Trois-Gros, c'est comme. Voilà, c'est tout ce côté merveilleux.
Et puis, et c'est un coffre-fort quand même, parce que le Goncourt aujourd'hui, en moyenne, selon les études, c'est 300-400 000 ventes assurées.
Oui, mais alors Nicolas, il ne faut pas oublier quelque chose.
Ça fait 800 000 euros à peu près.
Oui, ça rapporte, c'est un rapport financier très plus qu'appréciable, mais c'est une fois.
Ah oui, oui.
C'est une fois. Vous avez les impôts qui vous attendent à la sortie du garage. Ce que croient beaucoup d'écrivains qui ont un grand prix littéraire, le Goncourt ou un autre, c'est que tout d'un coup, chaque livre qu'ils vont sortir, ils vont avoir le même succès et la même rentrée d'argent. C'est faux.
Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on a envie d'être juré Goncourt. Je veux dire, c'est bénévole, c'est un travail monstre, hein, parce que nous, on voit le Goncourt chaque année au mois de novembre, mais toute l'année, il y a des réunions, il faut parfois partir à l'étranger pour les choix Goncourt étrangers, etc. Tout l'été est passé à lire une centaine de bouquins pour la sélection. Françoise Chandernagor, pourquoi être juré de Goncourt? À quoi ça sert? C'est de l'ego, c'est de l'orgueil ou c'est autre chose? J'imagine que c'est autre chose.
Moi, je peux vous dire que j'avais jamais pensé être jurée du Goncourt. Je ne savais même pas, n'étant pas d'un milieu intellectuel, j'ai appris que le Goncourt existait, je devais avoir 30 ans. Hein. Mais donc, je n'ai jamais rêvé de faire partie du Goncourt. J'ai eu la surprise un jour de recevoir un coup de fil d'Hervé Bazin qui me demandait de faire partie de cette académie. Et ben, je lui ai demandé 48 heures de réflexion, parce que je ne savais pas très bien quoi répondre, quoi. Je ne savais pas très bien si j'allais dire oui ou non. J'ai... Honnêtement, je crois que j'ai dit oui par politesse. Je me suis dit, voilà, des gens qui ont envie que je vienne chez eux à leur table. Bon, c'est très désobligeant sûrement de leur dire non. Et donc, j'y suis allée comme ça. Après, j'y ai pris goût, et à la table et à la compagnie qu'il y avait autour. Et j'ai toujours tellement aimé lire que bon, ça, je consacre tous les jours des heures à la lecture, donc ça, ça m'a pas gênée. Au bout d'un moment, ça, j'étais contente de découvrir la littérature contemporaine, que je lisais pas tellement, on est plus sur les classiques, ou la littérature étrangère aussi, et maintenant j'ai plus le temps d'en lire, ça c'est bien malheureux, mais je n'ai plus le temps, mais j'ai découvert la littérature française contemporaine, les auteurs importants, les tendances, les bon, donc ça c'était très intéressant dans un premier temps. Dans un second temps, c'est tout de même l'aspect travail éreintant qui domine. Et c'est vrai que c'est un gros travail. Eh ben, je reste parce que d'un autre côté, d'une part, j'ai bien repéré les gens, les auteurs. Il y en a dont j'aimerais bien qu'un jour ils sortent, qu'ils aient le Goncourt, etc. Il y a des auteurs qu'on aime, qu'on suit. Bon. Et d'autre part, parce que bah, c'est quand même une compagnie d'amis. Et on y mange très très bien. Mais, bon, mais bah, au fond, je me dis, bah, je lis pendant l'été. Pendant l'été, j'ai les petits-enfants, j'ai la famille, etc. De toute façon, il me serait difficile d'écrire pendant ce temps-là. En tout cas, pendant 2 ou 3 mois, moi, c'est au détriment de mon œuvre. Je n'écris pas pendant ce temps-là. Mais bah, je lis, je m'occupe de la famille, pourquoi pas.
C'est aussi participer, Didier Decoing, à l'histoire de la littérature, qu'on le veuille ou non.
Oui, et c'est se rassurer aussi. Parce que moi, je suis né à une époque, enfin, j'ai commencé à écrire, mais je suis né littérairement, à une époque où on commençait à dire la littérature, ça va mal. Elle est en train de mourir, ça n'intéresse plus personne, les livres. Et puis, plus ça avançait, plus j'entendais ça. Et quand arrive le moment du Goncourt, c'est un tel engouement, tout d'un coup, pour la chose imprimée, qu'on se dit, oh, dans le fond, ça vaut quand même la peine encore d'en écrire encore un. C'est, D'Angelès avait une expression que j'aimais bien, il disait, le Goncourt, c'est comme la cloche du dimanche qui sonne le rappel des distraits. Et ben, ça sonne le rappel des lecteurs qui ont oublié qu'ils sont des lecteurs.
Ça, c'est vrai que nous, les journalistes littéraires, on voit plein d'autres confrères ce jour-là.
Oui.
Bon, alors, Didier Decoing, dernière question à ce sujet. Ce sera qui cette année? Je plaisante, mais est-ce que le jury lui-même a une idée ou est-ce que réellement tout est possible?
L'année où, Françoise le citait tout à l'heure, l'année où Littel a eu les bienveillantes, il n'y avait pas l'ombre d'un doute. L'année où... Il y a des années comme ça où on sait, quand Houellebecq l'a eu pour La carte et le territoire, on savait...
Et cette année, vous savez déjà
non,
ou pas?
Cette année, je ne sais pas. Ouais. Cette année, je ne sais pas, mais c'est une année étrange. Si vous voulez, on est un petit peu, je vais reprendre une métaphore culinaire, un petit peu comme le chef qui va au marché le matin et qui regarde ce qu'il y a sur les étals des marchands et qui achète en fonction de voilà, ça c'est des girolles bien fraîches, là, j'en prendrai. Et nous, on fait notre marché dans ce que les éditeurs publient. Et cette année, est-ce qu'ils ont publié des choses étranges que je comparerais, si vous voulez, à ces légumes oubliés qui, de temps en temps, réveillent la curiosité des grands chefs. Bon,
c'est pané rutabaga cette année, quoi.
Oui, c'est bon le pané, d'ailleurs.
C'est très, bon,
c'est très, très bon. Le tout est de savoir les cuisiner et les rendre appétants, de donner envie aux gens de les manger.
Rendez-vous donc le plus tôt possible pour l'annonce du résultat. Françoise Chandernagor, Didier Decoing, vous restez avec nous. Dans un instant, c'est le livre culte, mais j'ai des questions à vous poser à ce sujet aussi.
La Voix est livre. Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix et Livre, toujours avec Françoise Chandernagor, écrivaine et membre de l'Académie Goncourt, et Didier Decoing, son président. Il est l'heure d'écouter la première page d'un livre culte. Aujourd'hui, j'ai choisi, pas tout à fait au hasard, La vie devant soi d'Émile Ajar, alias Romain Gary, qui a obtenu pour la deuxième fois le prix Goncourt. C'est interdit, normalement, La vie devant soi a été publiée en 1975. Au Mercure de France, on écoute la première page lue par Philippe Dussault.
La première chose que je peux vous dire, c'est qu'on habitait au 6e à pied et que pour Madame Rosa, avec tous ces kilos qu'elle portait sur elle et seulement 2 jambes, c'était une vraie source de vie quotidienne, avec tous les soucis et les peines. Elle nous le rappelait chaque fois qu'elle ne se plaignait pas d'autre part, car elle était également juive. Sa santé n'était pas bonne non plus. Et je peux vous dire aussi, dès le début, que c'était une femme qui aurait mérité un ascenseur. Je devais avoir 3 ans quand j'ai vu Madame Rosa pour la première fois. Avant, on n'a pas de mémoire et on vit dans l'ignorance. J'ai cessé d'ignorer à l'âge de 3 ou 4 ans et parfois, ça me manque. Il y avait beaucoup d'autres juifs, arabes et noirs à Belleville. Mais Madame Rosa était obligée de grimper les 6 étages seule. Elle disait qu'un jour, elle allait mourir dans l'escalier. Et tous les mômes se mettaient à pleurer parce que c'est ce qu'on fait toujours quand quelqu'un meurt. On était tantôt 6 ou 7, tantôt même plus là-dedans. Au début, je ne savais pas que Madame Rosa s'occupait de moi seulement pour toucher un mandat à la fin du mois. Quand je l'ai appris, j'avais déjà 6 ou 7 ans et ça m'a fait un coup de savoir que j'étais payé. Je croyais que Madame Rosa m'aimait pour rien et qu'on était quelqu'un l'un pour l'autre. J'en ai pleuré toute une nuit et c'était mon premier grand chagrin. Madame Rosa a bien vu que j'étais triste et elle m'a expliqué que la famille, ça veut rien dire et qu'il y en a même qui partent en vacances en abandonnant leurs chiens attachés à des arbres et que chaque année, il y a 3000 chiens qui meurent ainsi privés de l'affection des siens. Elle m'a pris sur ses genoux et elle m'a juré que j'étais ce qu'elle avait de plus cher au monde, mais j'ai tout de suite pensé au mandat et je suis parti en pleurant.
Europe 1, 14h-15h, la voix est livre. Nicolas Carreau.
C'était la première page de La vie devant soi, lue par Philippe Dussault. Je signale au passage l'impeccable édition du roman et des autres textes de Romain Gary à la Pléiade. 2 tomes, superbes. Didier Decoin et Françoise Chandernagor sont toujours avec nous. Je l'ai rappelé tout à l'heure, Romain Gary, grâce à son stratagème, obtient le prix Goncourt pour la 2e fois. C'est interdit normalement. Est-ce que vous vous souvenez l'un et l'autre de ce moment en 1975? Vous aviez tous les deux 5-6 ans. Bon, d'accord, mais est-ce que vous... Est-ce que vous vous souvenez de ce moment? Qu'est-ce que vous avez dit, Didier Decoin?
Ben moi, j'étais fou de joie parce que j'étais un fan d'Émile Ajar. J'avais lu Gros Câlin, l'histoire de Serpent Python inouï, et j'avais adoré Gros Câlin et je m'étais dit, ça c'est un... Je pensais que c'était un jeune auteur.
Vous aimiez Romain Gary aussi?
Oui, j'aimais beaucoup Romain Gary. Alors, j'avais lu aussi son premier Goncourt, Les Racines du Ciel. Ça m'avait beaucoup plu. Je me disais, quel film formidable, ça peut faire, etc. Mais pour moi, c'était Émile Ajar qui avait le Goncourt. Et j'étais ravi.
Françoise Chandernagor.
Moi, c'est peut-être à peu près à cette époque que j'ai découvert l'existence du prix Goncourt. Et je n'avais lu qu'un seul livre de Romain Gary. J'avais rien lu d'Émile Ajar avant. Non, sans doute on en parlait un peu, mais j'étais très étrangère au milieu littéraire, hein, par mon métier, par l'éducation et le milieu d'où je venais. Donc c'est le moment où j'ai commencé à m'intéresser, je dirais, à la littérature de gens vivants, quoi, des écrivains qui n'étaient pas morts et qui n'étaient pas dans les manuels de littérature. Mais je n'ai pas lu tout de suite La vie devant soi.
Didier Decoin, si ça arrivait sous votre présidence, vous en penseriez quoi? Ça vous amuserait ou...
Ah bah, si le livre était bon, ça m'amuserait énormément. À partir du moment où le bouquin est bon, c'est pas une escroquerie, hein. C'est rendre hommage à un livre qui aurait pu, effectivement... C'est incontestable que La vie devant soi méritait le Goncourt, donc c'est très bien, voilà. Ce qui compte, c'est le livre et le plaisir qu'on a à le lire. Bon, les gens se sont jetés sur La vie devant soi parce qu'ils ont cru que c'était le prix Goncourt. Quand on leur a dit que ce n'est pas le prix Goncourt, ils ont continué à se jeter dessus. Et personne n'a dit « remboursez-moi, c'est un faux Goncourt ».
C'est le roman qui compte et pas l'auteur.
Bien
ne
sûr.
Bougez pas, ça va vous plaire. Dans un instant, nous partons rendre visite au livre du chanteur Majid Cherfi. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre.
La Voix est libre continue, nouvelle page. On sort un peu du studio à la rencontre de Majid Cherfi, le chanteur de Zebda. Après Ma part de Gaulois, il publie La part du Sarrasin chez Actes Sud. C'était l'occasion de connaître ses lectures. Il m'a donné rendez-vous dans la librairie Jonas, du côté de la place d'Italie à Paris. Bonjour Majid Cherfi.
Bonjour.
On est à la librairie Jonas, on n'est pas chez vous puisque vous n'êtes pas parisien. Et donc, je vous ai donné rendez-vous ici, à la librairie Jonas, dans laquelle vous allez faire une rencontre demain, je crois.
Oui.
Une rencontre avec les lecteurs.
Oui.
Vous aimez ça, ce genre de rencontre chez les libraires?
Oui. Ça ressemble à une tournée de groupe de rock. On fait le tour des librairies. Bon, alors, après, j'aime bien ça. J'aime bien la tchatche, j'aime bien...
Mais les auteurs aiment bien ça, j'ai remarqué, les tournées des libraires. Oui. Et les libraires sont toujours très accueillants et leur donnent beaucoup de place, comme ça. Et il y a des rencontres intéressantes dans ces soirs-là.
Certainement, c'est le seul moment où on rencontre des lecteurs. Donc on est excité, quoi. Et en général, s'ils viennent, c'est qu'ils ont aimé votre livre. Et donc, voilà, on est un peu comme un concert. Et voilà, et on raconte des choses censées les intéresser.
Alors donc, c'est l'exercice. Quand je ne peux pas aller chez les gens, je leur demande de m'amener quelques livres qu'ils apprécient particulièrement. Mmh. Et vous m'avez ramené 5 livres. On ne va pas tous les donner maintenant, on va y aller doucement.
Ouais.
Mais je voudrais commencer par celui-là, qui est aussi un des plus célèbres. Ouais. Romain Gary, La promesse de l'aube. Pourquoi ce livre ?
Eh bien parce que il raconte entre autres un lien avec sa mère. Et moi, je trouve que la mère, c'est vraiment l'essentiel de ce qu'est la littérature, le personnage de la mère. Ou en tout cas, dans ce qui me passionne à moi. Et là, il dit qu'on ne se défait jamais de sa mère. Et quel malheur que d'avoir été aimé par sa mère. Et il se trouve que moi, j'ai été adulé par ma mère. Et qu'un jour, elle m'a dit... ce qui a effaré toute la famille, tout l'environnement, elle me dit à moi, c'est toi que j'ai choisi, alors que j'ai 7 frères et sœurs. Et j'ai trouvé ça absolument inouï d'un courage pareil, parce que et les mères que je connais ont eu 9, 10, 11 mômes, des familles maghrébines, beaucoup, et elles racontent qu'elles ont aimé tous ces enfants de la même manière. Et la mienne me dit, Pipo, on en aime un, après on est crevé. Et je dis, putain, ça c'est la vérité. Et j'adule ma mère depuis autant que je la hais d'ailleurs.
Et c'est ça ce que vous avez aimé chez Romain Gary, parce que donc c'est une mère qui croit beaucoup beaucoup en son fils mm-hmm. quand il est jeune, et elle lui promet qu'il aura un avenir incroyable
ouais.
avec des péripéties dingues.
Dingue, ouais.
Et lui il finit par y croire, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a la vie qu'il a eue.
Peut-être, oui.
Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alice Zeniter, L'art de perdre. Pourquoi vous avez amené ce roman-là, Alice Zeniter, qui est une auteure contemporaine,
ouais.
et qui a le vent en poupe d'ailleurs, hein, qui marche très bien, qui est très admirée.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous plaît chez Alice Zeniter, et en particulier dans ce roman-là ?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a cette épopée qu'elle raconte d'une histoire d'immigrés algériens, notamment une famille Harki, mais peu importe. Et elle part du début du XXe siècle et on finit dans une époque très très récente. Et donc c'est la petite fille de ce grand-père et toute la trajectoire de l'immigration. Alors d'abord, de faire des choix qui tout le temps sont les mauvais choix. Et c'est une famille algérienne et je suis algérien.
Voilà.
Et donc, elle va visiter cette montagne kabyle des années 30.
Vous êtes kabyle, d'ailleurs.
Oui, ouais, je suis d'origine kabyle. Alors, évidemment, ça me touche directement. Et je vois mon grand-père enfant de ce qu'on m'en a dit dans cette montagne kabyle. Et donc, je me vois visiter toute cette histoire de la colonisation, de l'immigration et ensuite de la trajectoire intra-France. C'est-à-dire ce qui nous arrive quand on est en France, on reste des exilés.
C'est ce que vous racontez dans Ma part de Gaulois, dans Ma part de Sarrasin
oui,
qui sort.
Oui.
C'est un peu ça aussi.
C'est un peu ça.
Ah, y en a un autre que vous avez amené que j'aime beaucoup aussi, c'est Stéphane Zweig, 24 heures de la vie d'une femme.
Oui.
Pourquoi ?
Bon, alors il y a une très belle écriture.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est le style d'abord ?
Oui, il y a un style, il y a une limpidité fascinante. J'aime cette idée que.
Et c'est court en plus.
C'est court.
Ça compte ça ?
Oui, ça compte tout. Ça compte. C'est génial. Moi, j'ai eu les boules d'avoir écrit un livre aussi épais. J'aurais pas voulu. Je passe à La part du Sarrasin. C'est un livre assez épais, mais moi, c'était pas une volonté. Et là, c'est très court, dense. Et ce qui m'a absolument fasciné, c'est d'être un individu, entre autres une femme, être belle, avoir tout, un mari beau, une des conditions...
Aisé.
Et bref, je suis une femme, il me manque rien. Un jour, je rencontre un homme et je quitte tout, comme ça. Tout abandonné pour l'idée de l'aventure.
Ouais. C'est ça l'intérêt des romans aussi, c'est vivre ouais. des vies qu'on n'a pas eues, qu'on aurait peut-être voulu avoir.
Absolument.
Ou des choix qu'on n'a pas osé faire et que le personnage
que
ose
le
faire.
Roman ouais. peut.
Plus surprenant, vous avez amené aussi Michel Houellebecq,
ouais.
Extension du domaine de la lutte.
Ouais.
Qui est son premier roman.
Oui.
Et qui est alors, aussi très court et très dense.
Oui.
Qu'est-ce qui vous plaît chez Houellebecq, qui est quand même assez désespéré comme garçon ?
Oui, C'est désespéré,
qui ressemble pas à la joyeuseté que vous dégagez. Voilà ce que je veux dire.
Oui. J'aime quand un auteur assume quelque chose de désespéré. Il a cette façon de raconter, la désespérance.
La misère humaine.
Misère humaine, quelque chose du bord du suicide permanent. La vie n'a pas d'intérêt. Et puis, cette description absolument misérable de l'âme humaine dans sa déshérence, dans son errance.
C'est pour ça que ça m'étonne, c'est que vous faites l'inverse d'une certaine manière.
Je fais
l'inverse. Avec la chanson notamment, c'est vous donner de l'intérêt à la vie d'une certaine manière.
Oui,
quoi.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais au fond de moi, il y a ce quelque chose. Il y a quelque chose de courageux. J'aime cette idée du courage littéraire. De dire, je ne vais pas essayer de plaire.
Ouais, ouais.
Et je suis séduit par d'ailleurs les courages littéraires, le vrai. De dire, voilà mon regard comme ça, il est à s'ouvrir les veines.
Vous parlez de la misère humaine, belle transition pour le dernier livre que vous avez apporté, sont Les Misérables,
ouais.
Qui devait s'appeler Les Misères au départ. Ah. Et Victor Hugo a changé le titre parce qu'il s'intéressait d'abord au personnage. Donc il a appelé ça Les Misérables. Qu'est-ce qui vous a... Vous l'avez lu tôt? Vous l'avez découvert sur le tard?
Je l'ai lu tôt, genre lycée, et je l'ai relu, d'abord parce que c'est un polar. Voilà, c'est une enquête policière, en même temps une description sociale, en même temps tout ce qui est sentimental, l'ordre de l'amoureux, etc. Et ma fascination, c'est ça. Il y a quelque chose de l'aventure et en même temps de la description de monde. Voilà ce qui m'a plu.
Merci Majid Cherfi.
Avec plaisir.
Merci beaucoup. Merci. Et merci à la librairie Jonas de nous avoir accueillis.
Merci.
À bientôt. De retour en studio, et je rappelle le titre du dernier livre de Majid Cherfi, La part du sarrasin, c'est chez Actes Sud. Didier Decoin et Françoise Chandernagor sont toujours avec nous. Didier Decoin, alors vous, on a déjà visité votre bibliothèque, c'était au mois d'avril dernier, quelque chose comme ça.
Vous revenez quand vous voulez.
Merci infiniment, puis en plus, on a de quoi faire.
Il y a de nouveaux livres en plus.
Mais donc, je me tourne vers Françoise Chandernagor. À quoi ressemble votre bibliothèque? Elle est classée? Elle déborde? Ou alors vous vous débarrassez des livres au fur et à mesure des lectures?
Non, je garde beaucoup de livres. Non, je garde tous les livres qui m'ont intéressé. J'en donne à d'autres, à des bibliothèques, surtout dans la Creuse où les bibliothèques sont pas riches. Donc j'en donne, mais moi j'en garde énormément et j'en achète parce que le comble, c'est que dès que je vais dans une librairie, moi je suis comme dans une pâtisserie. Je peux pas résister et donc j'achète des tas de livres que je ne reçois pas pour le Goncourt. Pas seulement des romans. Enfin, nous recevons beaucoup de romans, mais moi, j'achète aussi des livres d'histoire, un peu de littérature étrangère, des mémoires, enfin, beaucoup de choses. De toute façon, je ne rentre jamais dans une librairie sans en ressortir avec 3 ou 4 bouquins. Bon.
Donc, vous en recevez à peu près un millier par an, quoi.
Oui. Et ça déborde partout. Je ne sais plus quoi faire avec les livres. Non. Alors, j'en ai aussi dans les greniers. J'en ai partout. Bon, mes enfants s'en débarrasseront après quand je serai morte. Ils ne sauront pas quoi en faire. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que le classement m'est particulier. Il n'y a que moi qui ai une chance de retrouver un livre dans ma bibliothèque parce que ça n'obéit à rien de... C'est pas alphabétique, c'est pas... Non, c'est beaucoup plus complexe que ça.
Et les vôtres, chez Didier Decoin, c'était pas vraiment rangé, c'était un peu partout. Les vôtres, est-ce qu'ils ont une place dans la bibliothèque un peu spéciale ou pas, avec les traductions
miens,
et tout ça?
Oui. Les miens, pour les retrouver, ils ont une place à part dans un petit coin. Dans ma chambre, en fait. Et donc, mais ça ne tient pas énormément de place, mais on est obligé de pouvoir retrouver un de ces livres ou une des traductions, etc. Donc ça j'ai une place à part, oui. Je ne les mélange pas avec les autres. D'ailleurs, mes livres ne sont pas dignes d'être mélangés avec la plupart des grands que j'ai par ailleurs.
Dans un instant, plein d'autres livres. Il est l'heure des libraires. À tout de suite.
La Voix est livre. Nicolas Carreau.
Retour de La Voix et Livre, toujours avec Didier Decoin et Françoise Chandernagor. Il est l'heure de rendre visite à un libraire pour un conseil, des conseils. Nous partons donc chez Christophe Daniel, librairie La 25e Heure à Paris. Bonjour Christophe Daniel.
Bonjour Nicolas. merci de nous recevoir à nouveau à la librairie La 25e Heure à Paris. Vous nous donnez deux coups de cœur sympas comme ça, puis ensuite votre gros coup de cœur du jour, d'accord ?
D'accord. Alors je vais commencer avec un coup de cœur en format de poche dans la collection Folio. Un auteur danois qui s'appelle Kim Leine et qui a écrit un formidable roman qui s'appelle Les prophètes du fjord de l'éternité. Donc là, on est entre le Danemark, la Norvège et surtout le Groenland, où le héros est un jeune homme qui débarque à Copenhague de sa Norvège natale et qui va suivre des études où il va hésiter entre deux chemins, celui pour devenir médecin ou pasteur. Et il va se retrouver pasteur dans le Groenland. On est en 1787.
Ah oui, effectivement. Qu'est-ce qui lui arrive ?
Il lui arrive plein de choses. C'est un formidable roman d'aventure, un formidable roman historique aussi, avec des personnages très forts, très hauts en couleur, dont le personnage principal, et un environnement quand même très hostile. Le Groenland en 1787, j'aurais pas été passer mes vacances là-bas. Mais voilà, il vous emmène dans 700 pages d'un roman époustouflant.
Kim Leine, on dit Leine, hein ?
Je crois.
L-E-I-N-E, Les prophètes du fjord de l'éternité, c'est chez Folio, donc au format poche. Il y en a un autre, un coup de cœur, mais qui est un petit peu loin, je vous suis. C'est de l'autre côté de la librairie, sur une autre table. Alors, oula, je vous laisse prononcer le nom de l'auteur.
Alors, je vais dire Kim Chu, en me disant que c'est peut-être la bonne prononciation, mais sans en être vraiment certain. N.J. Kim Chu. Et là, on n'est pas au Groenland, mais on est en Malaisie, dans un petit village perdu, où il pleut sans arrêt. Et on va suivre une famille, le père, les enfants, et les drames et les plaisirs de cette vie très proche de la nature, avec cette pluie interminable, une écriture presque sensorielle. On a l'impression d'avoir cette pluie qui vous tombe sans arrêt sur la tête. Et c'est une écriture à la fois très délicate et très crue par moments. Et c'est vraiment pour moi une découverte. Et c'est publié aux éditions Piquet.
Et on n'a pas donné le titre, mais on aurait pu le deviner, ça s'appelle Pluie.
Voilà, s'il fallait le préciser, c'est Pluie.
Alors, N.J. Kim Chu, Pluie aux éditions Piquet. Et maintenant, votre grand coup de cœur du moment, là, celui que vous tendez aux clients en leur disant « Franchement, faites-moi confiance. » Encore une fois.
Alors, cette fois-ci, c'est Le Grand Vertige de Pierre Ducrozet. C'est pour moi un des romans les plus originaux de cette rentrée littéraire, enfin dans ceux que j'ai eu l'occasion de lire. Et alors là, l'action commence à Bruxelles, où on va retrouver le personnage principal, Adam Tobias, qui est une figure de l'écologie, un pionnier de l'écologie. Et les instances européennes à Bruxelles vont lui confier une mission, la création d'une commission internationale sur le changement climatique et pour un nouveau contrat naturel. Cette appellation un peu pompeuse, Adam Tobias n'est pas dupe de l'intérêt que portent les institutions européennes, mais il va quand même créer un réseau, le réseau Télémaque, où il va faire appel à des scientifiques, des explorateurs, des voyageurs, des gens en marge, des écrivains, et leur confier des missions secrètes à travers le monde. On navigue entre l'Australie, l'Afrique, la Birmanie, la Chine, la Russie. On voyage énormément dans ce livre. Il y a une écriture, ça se lit comme un thriller. On est entre Jules Verne et John le Carré. C'est vraiment époustouflant, ce rythme, ces personnages, donc ces jeunes qui sont envoyés à travers le monde. Le livre s'appelle Le Grand Vertige, mais si vous vous souvenez de ce magnifique livre de Nicolas Bouvier, L'usage du monde, ça aurait pu être aussi le titre de ce roman.
Voilà, pour carrément,
moi, quoi. Oui, c'est vraiment une très belle découverte de cette rentrée littéraire.
Alors, on récapitule. Il y avait un poche, Kim Leine.
Oui, Kim Leine, Les prophètes du fjord de l'éternité, en folio.
Ensuite, aux éditions Piquet, Kim Chu, Pluie.
Voilà, vous l'avez bien dit, Pluie, chez Piquet. Et enfin, le grand coup de cœur, Le Grand Vertige de Pierre Ducrozet chez Actes Sud.
Merci beaucoup Christophe.
Merci Nicolas.
À la prochaine.
Retour à Europe 1, toujours avec Didier Decoin et Françoise Chandernagor. Et nous sommes rejoints dans un instant par ce grand enfant de Victor Dolande et son conseil littérature jeunesse. Ça va faire plaisir à Didier Decoin. À tout de suite.
Il était une fois.
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 Et comme chaque semaine, on retrouve Victor Dolande pour son conseil littérature jeunesse. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Aujourd'hui, vous nous présentez un roman intitulé « Alma, le vent se lève » de Timothée de Fombelle.
Oui, je vous présente aujourd'hui l'un des plus beaux livres que j'ai lu en 2020. Et hasard, bah tiens, c'est un livre jeunesse. Bah, j'y peux rien, c'est Nicolas, c'est comme ça. Timothée de Fombelle, l'auteur, nous embarque à l'époque de l'esclavagisme et des galions à voile interminable. Il mêle deux histoires incroyables qui vont finir par se rejoindre. On est en 1786. D'un côté, Alma, jeune, voit son petit frère disparaître loin de sa famille et de la vallée d'Afrique qui l'est protégée du reste du monde. Elle décide de partir seule à sa recherche. Et au même moment, dans le port de Lisbonne, un certain Joseph Mars se glisse clandestinement à bord d'un navire de traite, un splendide galion joliment baptisé la Douce Amélie. Joseph Mars est à la recherche d'un immense et mystérieux trésor.
Ça plaît beaucoup à Didier Decoin. Ouais. Comment ces deux histoires se rejoignent, Victor ?
Alors, entre la houle de l'Atlantique qui effectivement chahute les hommes de la Douce Amélie et les contrées africaines, il y a effectivement un monde, sauf que la Douce Amélie a mis le cap sur l'Afrique pour aller acheter justement des esclaves. Alma, elle, sans s'en rendre compte, fonce vers le même endroit en recherchant activement son frère. On ne s'ennuie pas une seule seconde grâce au talent de Timothée de Fombelle. Tout y est, la beauté des descriptions, le rythme, on vient d'en parler, la grande épopée sur la Douce Amélie, le recul sans être péremptoire sur l'histoire. C'est un roman vraiment magnifique.
Question rituelle, à partir de quel âge peut-on lire ce livre ?
Alors à partir de 13 ans, sans aucun problème. Et j'ajoute le fantastique travail de l'illustrateur François Place. Il ne s'agit pas ici d'insérer 5-6 illustrations dans un roman de 400 pages. Il y en a en tout plus de 40. Et c'est ce qui, personnellement, m'a toujours manqué dans cette petite transition entre les romans jeunesse et effectivement les romans adultes, qu'il n'y a pas assez de temps en temps d'illustrations. Là, toute la place est faite pour ces splendides illustrations de François Place, et ça complète parfaitement, justement, le roman de Timothée de Fombelle.
Alma, le vent se lève de Timothée de Fombelle, illustré par François Place aux éditions Gallimard Jeunesse. Eh, Didier Decoin, vous aussi, vous avez fait ça de la littérature jeunesse récemment ?
Et je vais récidiver.
Au contraire, chez Lafont, c'était quoi ?
Oh, c'est une chose qui... C'est l'histoire d'un petit poulain qui est ravissant. Quand il naît, tout le monde dit « Mais c'est le plus beau des petits chevaux !» Et il a un problème, on lâche dans le pré pour le faire courir, pour voir, il court à l'envers. Il court à reculons. Tout le monde dit, on va le donner à la boucherie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'un cheval qui galope à l'envers ? Mais là-dessus arrivent des voleurs de chevaux qui prennent tous les chevaux du haras et puis qui veulent prendre au contraire. Mais comme il galope à l'envers, il ne rentre pas dans le camion des voleurs de chevaux. Et les chevaux qui sont déjà dans le camion se disent « Mais dans le fond, c'est peut-être lui qui a raison. » Donc ils ressortent à l'envers, ils bousculent les... Voilà, comme quoi, moi je voulais raconter un truc. C'est bien d'être différent.
Voilà,
être
parfait.
Différent, c'est un en plus.
Et pourquoi et comment vous êtes intéressé à la littérature jeunesse en tant qu'écrivain ?
Je continue à lire Mickey et le journal de Picsou.
C'est vrai ?
Oh, bah, bien sûr. Et puis je me suis lancé dans un truc délirant, qui est une collection de BD chez Glénat. J'ai déjà fait le premier tome de bande dessinée, et c'est extraordinaire. C'est un monde fabuleux.
Françoise Chandernagor, vous vous y êtes jamais essayé, vous, pourquoi ?
Par timidité, un peu. Je ne sais pas si je saurais bien. Enfin, et puis parce que ce que j'aime raconter aux enfants, en fait, je leur raconte beaucoup d'histoires, mais je leur raconte des histoires de l'histoire, souvent, ou des choses un peu fantastiques, un peu. Et bon, c'est très différent de la veine réaliste qui existe souvent dans la littérature pour adolescents, pour les préparer à la société, etc. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Et donc, jusqu'à présent, je ne l'ai pas fait, mais je le ferai peut-être parce qu'encore une fois, je raconte énormément d'histoires à mes petits-enfants. Oui.
Merci beaucoup Françoise Chandernagor et Didier Decoin. On se donne rendez-vous le plus tôt possible, on espère, pour connaître le Goncourt 2020. C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses. Et merci à Boris Paczynski, bien entendu, l'homme aux doigts de fée. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre. Nicolas Carreau.